Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer sur la foi ce soir.
Et
on va revoir le texte de référence, c'est Hébreux 11, verset 6. Et nous avons vu pas mal de choses sur la foi, et ce soir nous allons continuer sur les obstacles à notre foi. Et Hébreux 11, 6 nous dit, or là, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors nous avons remarqué que la foi, ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi. Et que la foi, c'est vraiment quelque chose d'absolument indispensable que nous devons avoir. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de marcher et de grandir dans la foi.
Nulle
part la Bible dit que nous devons prier, Seigneur, donne-moi la foi. Jésus a toujours cherché la foi chez les gens. Il a toujours répondu à la foi. Et si vous lisez les évangiles, constamment vous allez voir que Jésus va dire, ma fille, ta foi t'a guéri. Qu'il soit fait selon votre foi. Donc à chaque fois, ce que l'on voit dans la parole, c'est que Jésus va chercher la foi. Et il va répondre à la foi. Dieu répond à notre foi. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui permet de connecter le ciel avec la terre. De libérer la puissance de Dieu. D'amener la gloire de Dieu sur la terre. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'action divine. Donc la première chose que nous avons remarqué dans ce verset, dans Hébreux 11, verset 6, c'est que d'abord, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et là, nous avons vu que ce n'est pas dans le sens de croire en un Dieu, c'est-à-dire avoir une croyance générale. Mais c'est vraiment voir Dieu se manifester à certaines occasions dans notre vie. C'est ce que nous avons tous vécu. Dieu nous a prouvé qu'il existait. Il s'est manifesté quelque part dans nos vies avant que nous donnions notre vie à Jésus. Et l'objectif de Dieu, c'était de dire, tu vois, je suis vivant et je suis capable d'agir dans ta vie personnellement. Et ça, ce n'est pas notre foi directement, mais c'est ce qu'on appelle la foi des sens. C'est-à-dire, souvent, quelqu'un a prié pour nous et on a vu quelque chose dans notre vie, alors qu'on n'était pas sauvés. Ou même au début de notre vie chrétienne, Dieu se sert de ce type de foi pour nous dire, voilà, je t'aime. Tu vois, j'agis là parce que je veux agir dans ta vie. Et ça, c'est la foi d'essence. C'est la foi qui nous permet de voir qu'il est là, présent. C'est les autres qui ont prié pour nous. On a été au bénéfice de leur foi. Mais je vous ai montré que ce genre de foi, avec ce genre de foi, vous n'irez pas loin. Thomas a eu ce genre de foi. Nous l'avons vu, il voulait regarder les trous dans les mains de Jésus. Il voulait regarder la cicatrice sur le côté. Et après seulement, il a constaté, il a dit, ah oui, tu es bien le Seigneur là, qui était sur la croix.
Et
Jésus lui a reproché ici. Il lui a reproché de vouloir d'abord voir et de croire après. Donc nous avons remarqué que ce genre de foi ne nous mènera pas loin. Alors ensuite, nous nous sommes intéressés à la foi biblique. On a vu que la foi venait de la parole de Dieu. Qu'il va falloir méditer la parole. Que cette parole, le logos, c'est-à-dire ce que Dieu dit ou ce que Dieu a dit dans sa parole ici. Et on a vu que le logo, c'était l'expression de Dieu, Dieu qui s'exprime. Donc c'est ce qu'il a mis dans sa parole. Ou c'est une parole qu'il va te donner spécifiquement pour ta vie. Un jour, tu es là, tu pries. Et le Seigneur te parle clairement. Il te dit, voilà, je veux que tu me serves. Tu dis, ah, Seigneur, c'est quoi ça? Et tu te sens inadéquat. Tu ne sais pas vraiment quoi, comment faire. Ou le Seigneur te dit, voilà ce que je veux que tu sois. Et là, Dieu te parle spécifiquement. Et puis, il te confirme par d'autres personnes. Ça, c'est une parole que Dieu a donnée. Est-ce qu'elle s'accomplira toute seule? Nous avons vu que non. C'est là aussi où beaucoup de chrétiens se trompent. Et quand ils font 10 ans, 20 ans, 30 ans avec le Seigneur, ils disent, mais pourtant Dieu m'avait dit que. Et ça ne s'est pas produit. Alors ils doutent. Ils remettent en question la parole de Dieu. Entre temps, souvent, ils se sont refroidis. Et c'est dommage. Parce qu'il n'avait pas compris une chose. C'est que ça, c'était le logos. C'est-à-dire, Dieu avait dit une chose. Mais maintenant, ça ne s'accomplira pas par hasard. Il va falloir une collaboration avec chacun d'entre nous. Et cette parole doit devenir ce qu'on appelle un réma, c'est-à-dire doit se révéler dans nos cœurs. Et nous avons vu l'exemple d'Abraham. Qui nous a montré un excellent témoignage parce qu'il est le père des croyants, il ne faut pas l'oublier, sur la marche par la foi. Donc, Dieu nous demande de faire notre part. Donc, je vous ai montré que quand vous marchez dans la foi, il y a des moments où vous allez devoir obéir directement. Et votre obéissance va amener des promesses à s'accomplir toute seule. C'est l'exemple, par exemple, d'Abraham. Abraham sort de la maison de son père selon l'ordre de Dieu. Et il voit une partie de ses promesses s'accomplir. Entre autres, que son nom sera grand. Et une des façons dont Dieu a rendu le nom d'Abraham grand,
il est quand
même bon, Steve, hein, parce qu'il arrive à me suivre. Hein. Que le Seigneur te bénisse.
Amen.
Et en fait, Abraham voit son nom devenir grand parce qu'il devient ultra prospère. À partir du moment où il sort de la maison de son père, Dieu le fait prospérer d'une façon incroyable. Par contre, il n'avait pas de postérité. Et c'est là où nous avons vu il y avait tout un travail de la foi d'Abraham. Et là, il y a un facteur qui parfois nous décourage qui s'appelle le temps. Parce que la Bible dit, revenons à Hébreux 11, verset 6, qu'il est dit à la fin, il est le rémunérateur, celui qui salarie notre foi. Ça veut vraiment dire rémunérer notre foi, salarier notre foi. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir appliquer ta foi. Jusqu'à temps de voir avec tes yeux. Et parfois ça demande des années. Mais il va falloir que tu crois et que tu continues à croire d'une façon constante pendant longtemps alors que tu ne vois rien bouger. Et nous avons étudié Marc 11 versets 23 et 24 où Jésus dit de parler à nos montagnes. Donc nous avons vu que certaines de nos montagnes ce sont les problèmes qu'on a, des conséquences de notre vie avant Jésus, avant de connaître Jésus. Mais nous avons vu aussi que nos montagnes, ce sont les défis pour accomplir notre destinée. Et ça c'est très important parce que je vous rappelle que les chrétiens qui sont tout le temps en train de vous dire ah je suis dans les fardeaux, ah oui je crois que Dieu va bientôt agir, j'ai les problèmes tout le temps pendant 20 ans, ça c'est les chrétiens qui n'ont aucune foi.
Il
y a un temps où tu dois sortir de tes maladies, où tu dois sortir de tes problèmes d'argent, où tu dois sortir de tes problèmes personnels. Toutes les choses qui essaient de te retenir, qui sont soit les conséquences de ton arrière-plan, qui ne sont pas forcément de ta faute. Nous l'avons vu, si des fois on n'a pas d'éducation, on vient d'une famille pauvre ou autre, ou qu'on a connu que la maladie depuis notre enfance, tout ça, au bout d'un moment, on doit s'en sortir. Ça va demander quelques années, ça va être le début de notre marche par la foi. Mais
il ne
faut pas s'en arrêter là. Parce qu'après, il faut accomplir ce que Dieu nous a demandé, notre destinée. Et là, tu vas devoir marcher par la foi. Là encore, dans Marc 11, versets 23 et 24, c'est ce que Jésus nous dit. De parler à nos circonstances, aux problèmes qu'on peut rencontrer, aux défis que nous avons. Mais aussi, nous avons vu envers Dieu. Nous devons apprendre à exercer notre foi verticalement. Et je vous rappelle que dans la foi, il y a des objectifs. Ne priez jamais Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni. Seigneur béni n'a pas d'objectif. Apprenez à mettre des choses précises selon le niveau de votre foi. Quand vous faites ça, vous allez voir, vous allez aller de plus en plus haut. Donc apprenez à vous fixer des objectifs. Des objectifs dans tous les domaines. Parce que la foi voit. La foi perçoit à l'avance le résultat. La foi se voit dans le résultat. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la foi. C'est que vous vous voyez dans le résultat. C'est une capacité surnaturelle que Dieu vous donne. Vous avez une vision que Dieu vous a donnée. Et dans cette vision, vous êtes en train de méditer et vous voyez dans le résultat. Ça, c'est les yeux de votre foi. Par contre, quand vous ouvrez les yeux naturels, vous aurez des millions et des millions et des millions de raisons d'être découragé. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la foi. C'est pour ça que j'aime cet instrument de la foi. Parfois, ce n'est pas facile. Parce qu'on est là et il y a le temps qui est là qui essaie de nous manger. Et on dit Seigneur, quand est-ce que ça va vraiment se passer? Mais tu es là et tu fais travailler ta foi. Et Dieu la rémunère. Et rappelez-vous d'une chose, quand Dieu paye, il paye très bien. Je préfère le salaire de Dieu que le salaire des hommes.
Amen.
Amen. Et c'est important d'apprendre ça. C'est important d'apprendre ces choses. Parce que la vision que vous avez au travers de votre foi, c'est une perception extraordinaire. Une faculté surnaturelle. Quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Vous voulez aller là et vous savez que c'est là où Dieu vous veut. Et il
n'y
a personne qui pourra vous en empêcher. C'est ça qui est extraordinaire avec la foi. Ça vous donne cette capacité surnaturelle. Apprenez à être des grands visionnaires. Je veux que cette église soit remplie de grands visionnaires. Parce que pour moi, c'est important. Vous savez, personnellement, il a fallu que je change complètement ma façon de voir les choses. Parce que personnellement, je n'étais pas du tout quelqu'un qui était un visionnaire, mais pas du tout, du tout, du tout. J'étais quelqu'un qui a été éduqué à voir au jour le jour. Comme beaucoup d'entre vous. Mais après, j'ai appris ces principes. Ça a été très long pour moi, en tout cas. De pouvoir voir les choses à l'avance. Et il n'y a rien de plus exaltant de voir les choses à l'avance. De les parler. D'œuvrer pour que ces choses se réalisent et de voir Dieu nous propulser. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de fabuleux. Il faut justement apprendre à marcher dans la foi. Alors, nous en étions dans 1 Timothée 6, verset 12. Où la Bible nous montre qu'il y a un certain nombre d'obstacles à notre foi.
En
Timothée 6, verset 12, Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Je vous ai montré qu'il y a beaucoup de gens qui combattent un mauvais combat. Beaucoup de chrétiens se trompent de combat. Il y a des gens, parfois, ils se combattent les uns les autres en tant que chrétiens. Ils se combattent les uns les autres, l'un contre l'autre.
Et
ils voient que l'autre, c'est son ennemi. Et ça, ce n'est pas une bonne chose du tout. Ça,
ce
n'est pas le bon combat. Le bon combat de la foi n'a rien à voir avec ces choses-là. Il y a des gens, par exemple, qui disent « on va combattre le péché ». Non, tu n'as pas à combattre le péché. Amen Jésus, parce que c'est Jésus qui a combattu contre le péché. Quand les gens reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, leur vie est transformée et leur péché est pardonné et leur nature de péché est changée. Donc toi, apporte la solution, c'est ce que Jésus te dit. Apporte Jésus aux gens. Quand nous apportons Christ aux autres, nous combattons entre guillemets le péché, mais pas directement. Il y a des gens, par exemple, qui combattent le diable. Non, ne combat pas le diable. La Bible nous dit de lui résister simplement avec une foi ferme. Parce qu'il doit t'obéir. C'est la différence. Quand il te cherche des histoires, tu n'as pas à le combattre. Tu n'as pas à le combattre quand il te cherche des histoires. Tu as juste à exercer ton autorité. C'est pas la même chose. Quand tu exerces ton autorité, ça veut dire que tu prends ta position. Quand tu essayes de combattre le diable, qui es-tu pour combattre le diable? Par toi-même, mais tu te fais balayer par le diable. C'est pour ça que Jésus t'a donné son nom. Pour que tu apprennes à lui résister, à lui dire non. Ici, tu n'as pas le droit de toucher. Je t'interdis au nom de Jésus. Et à ce moment-là, il est obligé de fuir. C'est très clair, c'est ce que la Bible nous dit.
Vous
voyez, il faut faire attention. Souvent, nous plaçons des combats qui ne sont pas de réels combats. Il y a des églises qui font tout et n'importe quoi avec ça. Donc, combat, le bon combat de la foi. Ça veut dire, reste dans le domaine du surnaturel de Dieu. Apprends à voir comme Dieu voit les choses. Parle comme Dieu parle. Comporte-toi comme Dieu veut que tu te comportes. Parce que je vous le rappelle que quand nous naissons de nouveau, il y a trois maladies dont nous devons guérir. C'est la maladie de nos mentalités. Car nos mentalités ont été forgées dans le naturel. Nous pensons dans le naturel, nous raisonnons dans le naturel. Nous croyons que ce que nous voyons. Nous parlons les problèmes, etc., etc., etc. Donc, c'est toute une mentalité qui a été forgée par le monde. Le monde nous a formés. Et qu'est-ce qui va se passer?
D'un
seul coup, tu reçois Jésus. Ton esprit est recréé. Mais ta mentalité doit changer. Elle doit guérir. Nous sommes malades dans nos mentalités. Les gens se tuent pour de l'argent. Les gens se haïssent pour de l'argent. C'est une maladie de leur mentalité. Et c'est terrible. Il y a des chrétiens qui font plein d'histoires avec l'argent. Ils font plein d'histoires pour tout un tas de choses. Parce qu'ils ne comprennent pas. Leur mentalité a été pourrie. Leur mentalité a été pourrie. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer nos mentalités. Ensuite, nous devons changer nos paroles. Parler la parole. Parler les choses divines. Parler la foi. C'est ce qu'on a vu dans Marc 11.
Et
ensuite, il faut changer nos comportements. Nos comportements par rapport aux situations. Parce que dans la foi, tu vas te comporter d'une certaine façon. Les gens ne vont pas comprendre comment. Des fois, quand tu cours vers une direction, en voulant remplir une vision, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi et que tu vois. Et tu cours tous les jours pour ça. Mais les gens ne le comprennent pas.
Et
parce qu'ils ne savent pas vers quoi tu vas aller. Parce qu'ils ne comprennent pas la vision qu'il y a dans ton esprit. Tu as créé cette foi incroyable. Et c'est cette foi qui te propulse, qui te fait courir. Et donc tu as un comportement par rapport à ça. Tu gères tes priorités par rapport à ça. Par rapport à une situation, tu vois la réponse de Dieu. Plutôt que les histoires et les problèmes des hommes. Ça, c'est un comportement divin. Et quand tu commences à comprendre ces choses,
tu as
compris beaucoup de choses. Beaucoup de secrets du royaume de Dieu. Donc la Bible nous dit de combattre le bon combat de la foi. Donc il y a des obstacles à notre foi. Un obstacle, c'est quelque chose qui va t'empêcher d'aller plus loin. Qui essaiera de te faire tomber. Alors nous avons vu plusieurs obstacles. Nous avons vu par exemple ne pas agir sur la parole. Il y a des gens par exemple qui se plaignent que dans leurs finances ça ne va pas. Oui, mais ils n'apprennent pas à agir sur la parole de Dieu concernant de donner au Seigneur. Il y a des gens qui attendent le baptême du Saint-Esprit pendant des années. On prie pour eux, l'onction de Dieu est sur eux, mais ils ne libèrent pas leur langue. Donc ils n'agissent pas sur la parole. Il y a des gens qui sont chroniquement malades et qui restent malades parce qu'ils n'agissent pas comme s'ils étaient guéris. Il y a plein de choses comme ça où on n'agit pas sur la parole de Dieu. Et ça, c'est un obstacle à la foi. Alors, on a vu aussi des gens qui ne laissent pas leur passé derrière eux. Qui sont tout le temps en train de vivre dans leur passé. Leur passé est tout le temps en train de les rattraper. D'où ils viennent, c'est plus important que ce que Jésus a fait pour eux.
Déjà.
Ils ont vécu ça, ça et ça. Et c'est tout le temps des choses qui ramènent, qui ramènent, qui ramènent.
Hein.
Le moindre problème qui se passe ou une situation donnée, y a tout le passé qui ressurgit d'eux. Ils n'arrivent pas à fermer la porte de leur passé. En fait, ce n'est pas qu'ils n'y arrivent pas vraiment, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment. Et je vous ai montré que ça, votre passé vous ramènera toujours vers les choses négatives et basses. Et ça, c'est très mauvais. La foi n'a pas de marche arrière. Il y en a sur les voitures, mais il n'y en a pas dans la foi. La foi te propulsera toujours en avant, jamais en arrière. La foi ne retourne jamais derrière. La foi voit toujours devant. Et elle voit toujours très très loin. Malheureusement, quand les gens regardent à leur passé, ils avancent un peu et après ils mettent la marche arrière et hop, ils reculent. Ils avancent un peu et ils reculent. Et on se demande pourquoi finalement ces gens-là, eh bien, n'avance pas. Ben c'est normal, ils avancent un peu, ils reculent. Ils avancent un peu, ils reculent. Non, Jésus a fait de toi une nouvelle créature en Christ. Tu dois laisser ton passé derrière. Parce que ton passé, tu ne peux pas le refaire. Et il mangera, si tu es toujours en train de revenir en arrière, ton passé sera le plus grand mangeur des visions divines. C'est ce qui va manger les visions que Dieu va te donner. Et tu n'accompliras jamais rien dans ta vie. 5 ans, 10 ans, 20 ans vont passer. Et tu seras toujours blessé. Tu n'auras jamais pardonné. Tu seras toujours dans l'amertume. Tu n'auras jamais tourné la page. Que chaque jour ce soit pour toi une page nouvelle qui s'écrit dans ta vie. Tourne la page d'hier. Et demain, tu vas tourner la page d'aujourd'hui. Et tu vas écrire quelque chose de nouveau. Fonctionne comme ça, tu seras tranquille. Et quand le diable essaye de venir en te disant, mais tu sais, il t'a fait ça ou elle t'a fait ça.
Vraiment,
tu vois, et maintenant, regarde, elle a ça et ça. Ouh, c'est pas bien. Et là, tu es en train de rrrr à l'intérieur de toi. Oh, laisse tout ça. Réjouis-toi même si tes ennemis prospèrent. Et rigole. Ce sera le meilleur médicament que tu peux avoir. Ne t'occupe pas de droite et de gauche de ce qui se passe. Regarde devant toi et accomplis ta destinée. C'est très important. Maintenant, bien sûr, si quelqu'un te reprend légitimement quand tu as fait des erreurs, sois enseignable, qu'on soit bien d'accord. Parce que ça t'aidera à grandir. Mais là, je parle de blessures du passé ou d'arrière-plan. Le rejet, par exemple, il y a des gens qui se sentent rejetés parce qu'ils n'ont pas été aimés dans leur famille, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment de famille, ou parce qu'on les a toujours traités d'imbéciles dans leur famille. Et parfois ce sont des choses qui sont en nous, mais il faut s'en libérer une bonne fois pour toutes, parce que Christ nous a affranchis. Les gens qui vivent dans leur passé, ce sont des gens qui n'accomplissent jamais rien pour
Dieu.
Ils sont tout le temps en train de revenir en arrière. Et Dieu ne peut rien accomplir avec eux. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous commencez à prendre des pas de foi, l'ennemi essaiera de vous mettre des bâtons dans les roues. Justement pour essayer de vous faire tomber. Et très souvent, ce sont les problèmes de caractère que nous avons qu'il essaie de faire remonter à la surface. Et d'un seul coup, tu te retrouves à des pensées mauvaises. Comme par hasard, les mauvaises circonstances du mauvais moment, vous savez, avec la mauvaise personne, entre guillemets. Et là, d'un seul coup, tu exploses. Alors que dans d'autres circonstances, tu n'aurais pas explosé. Donc, ça, c'est vraiment un ennemi de la foi.
Et
il faut t'en débarrasser. Alors, on va voir l'incrédulité. Je vois qu'on en avait parlé un petit peu, mais on va continuer là-dessus. Dans Marc 6, on va reprendre une parole de, une parole de la parole de Dieu.
Mariko gatandatu dusome mu ijambo ry'Imana.
L'incrédulité.
Kutizera.
Jésus l'a souvent dénoncé.
Yesu yarakunze kubishira habona.
Marc chapitre 6.
Mariko igice cya gatandatu.
Au verset 4 et jusqu'au verset 6. Il est dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put, du verbe pouvoir, faire là aucun miracle, si ce n'est de guérir quelques malades, en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur incrédulité. Verset, Marc 6,
versets 4, 5 et 6.
Alors je vous rappelle que l'incrédulité a deux sources. Un manque de connaissance de la parole, c'est-à-dire l'ignorance. Quand tu ne sais pas que quelque chose t'appartient, tu ne peux pas croire pour cela. C'est pour ça que nous devons être éduqués dans la parole. C'est pour ça que Dieu veut que nous connaissions sa parole. Savoir ce qui nous appartient. Avoir la connaissance de la parole. Ce qui te permet de croire. Mais si tu ne sais pas que quelque chose existe, ou que peut-être on t'a pollué avec des mauvais enseignements, alors tu ne pourras pas croire. Donc tu ne pourras pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Un autre générateur d'incrédulité, source d'incrédulité. Eh bien, bien sûr, c'est la rébellion. En disant, je ne suis pas d'accord avec ça. Dieu le dit dans sa parole, mais je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ne le diront pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai, le Seigneur dit que ceci ou cela dans sa parole, mais je ne comprends pas et je ne vois pas comment ça peut se faire. Ça s'appelle de la rébellion. Et là, il faut demander pardon au Seigneur. Et dire, Seigneur, je refuse ça dans ma vie. Je ne veux pas me rebeller à ta parole. Mais je veux apprendre à croire ta parole.
Mais
Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides.
Ça,
c'est une bonne prière, frères et sœurs. Reconnaître ces choses-là. Et s'humilier devant Dieu. Et dire, Seigneur, je ne comprends pas ça. Je
ne
comprends pas, et Seigneur, des fois ça m'énerve. Il y a des situations qui nous énervent, n'est-ce pas? Parce qu'elles ne changent pas, elles n'ont pas l'air de changer en tout cas.
Et
tu vas apprendre à changer tes circonstances. Mais il faut que tu apprennes à être soumis à la parole de Dieu. Être soumis à la parole de Dieu, c'est mettre la parole en premier. Dire la parole de Dieu dit ça, je le fais. Je le crois. Je ne veux pas écouter autre chose. Et quand tu prends cette attitude-là, c'est une attitude que Dieu honore. Regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 17. Je regardais ça tout à l'heure, c'est vraiment étonnant. Il y a cette histoire avec cet enfant qui est en fait qui est épileptique. Et quand il est épileptique, comme il est épileptique, le père a appelé les disciples pour qu'ils viennent délivrer l'enfant. Regardons dans Matthieu 17, verset 14. Donc Matthieu 17, 14, il est dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Alors, ici, Jésus va dire quoi? Va parler d'incrédulité Il va parler de petite foi.
Kuva kuri 14 gushika kuri 10 kuri 20 Yesu arababwira ibyo kwizera guto no kutizera.
Donc il va leur dire vous êtes race incrédule.
Ngo bantu bo kwizera guke.
C'est-à-dire sans foi.
Ngo bantu muyana bajamo ntimugira no kwizera.
Après il va leur dire vous avez une petite foi.
Ngo mufise kwizera guke.
Et c'est pour ça que vous n'avez pas pu.
Donc vous manquez de
foi.
Quand on lit ce
passage, on a l'impression que Jésus est dur avec ses disciples.
Je me faisais
cette réflexion il y a quelque temps.
Sauf
que tout à l'heure, j'ai regardé dans Matthieu 17, au début du chapitre, il y a quelque chose qui se passe. C'est la transfiguration. Et dans la transfiguration, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller avec Jésus sur une montagne. Et d'un seul coup, ils vont avoir une vision extraordinaire de la gloire de Dieu. Ils vont faire une expérience surnaturelle. Ils vont voir le Seigneur. Ils vont voir Élie, une représentation d'Élie et une représentation de Moïse. C'était prophétique, je dis bien une représentation. Ils ont une vision. En fait, c'est une vision prophétique. La loi et l'esprit. Moïse représentait la loi.
Élie
représentait l'onction de l'esprit. Et ils vont avoir cette vision. Ils vont même entendre une voix du ciel. Et quand je vous dis souvent que les miracles ne stabilisent pas les gens dans la foi, vous en avez un exemple ici. Ils vont vivre un puissant miracle, une vision, la gloire de Dieu. À tel point que Pierre était tellement excité avec ça. Il dit, Seigneur, on va mettre nos tentes ici, on va habiter ici, c'est tellement bien dans la gloire. Ta gloire, c'est tellement extraordinaire, Seigneur. On va faire des tentes là, on va rester ici, on est trop bien.
Ah,
mais Jésus les a fait descendre en bas. Et là, il se retrouve devant juste un démon à chasser. Et ils
ne
vont pas pouvoir. Et c'est pour ça que Jésus se fâche. De temps en temps, Jésus se fâche. On le voit dans l'Écriture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une expérience tellement extraordinaire. Que là, ils se retrouvaient juste avec quelque chose à faire qui était simple. Qui leur demandait un peu de foi. Et en fait, ils n'ont même pas eu cette foi pour transformer les situations. Donc, ça nous dit beaucoup de choses. L'incrédulité empêche la puissance de Dieu. L'incrédulité vraiment empêche ces choses-là. Empêche Dieu de se manifester. Alors, l'incrédulité, souvent, c'est dû à un manque de compréhension du monde de Dieu. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre chez beaucoup de chrétiens aussi. Ils ont du mal à comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pour ça que plus tu apprends à marcher dans la foi, plus
tu as
une compréhension spirituelle de comment Dieu fonctionne. Et c'est pour ça que Dieu veut nous amener à monter dans la foi. Vous ne pouvez pas vous attaquer à une grande montagne si vous avez peur d'un grain de sable. Vous comprenez l'image? Ça veut dire qu'il faut d'abord apprendre à enlever le grain de sable. Et ça, c'est assez facile. Mais petit à petit, tu vas apprendre à mettre ta foi en action
contre
des circonstances qui sont de plus en plus importantes,
contre
des défis qui sont de plus importants.
Et
c'est là où tu grandis dans la foi. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, la foi est une école dans laquelle tu dois apprendre à grandir régulièrement. Tu dois t'exercer régulièrement. C'est pour ça que dans cette église El Shaddai, nous enseignons la parole de la foi. Parce que nous savons que ça met du temps. Nous avons du temps à grandir spirituellement. Nous devons apprendre à exercer notre foi. Nous faisons des expériences. Nous grandissons dans le Seigneur. Nous changeons nos mentalités. Nous parlons de plus en plus le langage de Dieu. Nous nous comportons d'une certaine façon par rapport aux différentes situations. Et c'est là où nous grandissons dans la foi. Vous devez apprendre à grandir dans la foi. Il faut que votre foi grandisse. Alors, un autre ennemi de la foi, c'est le manque de compréhension de notre héritage en Christ. Ça, c'est un problème aussi que l'on voit souvent chez les chrétiens. Ce manque de compréhension de ce que nous avons déjà en
Christ.
La Bible nous parle dans Éphésiens 1:3 de notre héritage, de ce qui nous appartient maintenant. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez méditer. Ce qui vous appartient aujourd'hui. On va voir, la Bible nous en parle. À plusieurs reprises, la Bible va nous montrer certaines choses. La Bible nous dit dans Éphésiens 1:3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute la bénédiction, c'est au singulier dans les meilleures traductions, spirituelles, dans les lieux célestes en Christ.
Gw'Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Yaduhezagira imihezagiro yose y'impuhema hano mu ijuru muri Kristo.
La Bible est claire.
Bibiliya irabitomora neza.
La Bible nous montre que nous avons été bénis.
Bibiliya twereka ngo twarahezagiwe.
Quand est-ce que cette bénédiction nous a été transmise?
Twahezagiwe ryari?
Le jour où nous sommes nés de nouveau. Le jour où tu es né de nouveau. Tu es sorti de la malédiction, du péché, de la mort spirituelle, de la maladie, de la pauvreté, toutes les malédictions qu'il y avait dans ta vie. Toutes ces malédictions qui étaient dans ta vie à cause de ta nature pécheresse, Dieu t'en a fait sortir. C'est pour ça que la Bible nous parle que nous avons changé de royaume. Tu es sorti du royaume des ténèbres où le diable avait des droits légaux sur toi pour naître dans son royaume, où la Bible dit que tu as été béni. La Bible ne dit pas que nous allons être bénis
ou
que nous sommes bénis. La Bible nous dit que nous avons été bénis. Le jour où tu as reçu Jésus, il y a eu un héritage qui t'a été transmis. Un héritage spirituel. Il y a une partie que tu touches maintenant et il y a une partie que tu toucheras quand tu vas mourir physiquement. Avec tous les événements dans lesquels Dieu va t'amener, ce qu'on appelle la consommation du salut. Mais sur cette terre, tu as un package qui t'appartient, qui est dans le ciel pour toi, mais que tu dois apprendre à manifester sur la terre. Et la manifestation de cet héritage va dépendre de quoi? Ta foi. Voilà, c'est pas compliqué. Dans ton compte en banque, là-haut, au ciel, t'as plein de choses. Maintenant, il faut que tu apprennes qu'est-ce qui t'appartient. Et que tu apprennes aussi comment on touche les chèques à la banque céleste.
Hein,
quand tu as un beau chèque là, de millions, de gros millions, là, comme ça, tu dis, ah, j'ai un chèque, je vais aller à la banque toucher mon chèque.
Tu
es content, tu vas à la banque avec quoi? Avec un sourire. Avec le chèque dans ta poche. Et tu dis, c'est bien, aujourd'hui, je vais aller toucher mes sous. Et c'est une bonne chose, t'es content.
Tu n'es
pas en train de te dire, oh, aujourd'hui, bof, je vais toucher mon chèque aujourd'hui. Non, t'es content.
Oh, ya, ugendo yohewe.
Tu pars et tu vas à la banque, tu es content parce que ukagenda tu sais que tu vas toucher tes sous. Et c'est une bonne chose. Eh bien, il faut que tu apprennes pareil, à faire pareil avec la banque céleste. Dieu a crédité ton compte en banque céleste. Mais il faut simplement apprendre à toucher ses chèques. La Bible nous parle que nous sommes co-héritiers avec Christ, dans Romains 8. Romains 8, la Bible au verset 17, nous dit la chose suivante. Et ça, regardez bien, on va lire à partir du verset 16, ça va confirmer ce que je vous disais précédemment. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On va lire même le verset 15, ce sera bien. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ensuite, au verset 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec
lui.
Dans ce monde, tu n'as peut-être hérité de rien du tout. Peut-être que tes parents n'avaient rien à te léguer s'ils sont déjà morts. Mais sache une chose, dans le royaume de Dieu, tu es héritier.
Et
cet héritage, une partie, c'est maintenant. Donc il faut que tu te comportes comme un héritier. Et vous savez, parfois il y a des héritiers qui héritent de grands biens. Et qui gèrent bien et qui font prospérer ces grands biens.
Il y en a
d'autres, ils ont de grands biens et ils mettent tout par terre au bout de quelque temps. Vous avez par exemple un père qui a passé toute sa vie à créer une super entreprise qui marche bien. Et quand il décède, le fils héritier va quasiment tout mettre par terre en quelques années. Il y a plein d'histoires comme ça dans le monde entier. Mais nous sommes héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui, la Bible. Imaginez-vous héritiers avec lui, littéralement. Vous savez, Jésus aime une chose. Écoutez bien ça. Jésus, il aime partager avec nous. Jésus est quelqu'un qui aime partager. On
ne
dit pas un partageur en français, je ne crois pas que ça se dise, mais en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Lui, il a souffert pour nous faire entrer dans le royaume.
Et
il a dit, le Père dispose du royaume en votre faveur. Dieu dispose du royaume au travers de Christ.
En
ta faveur. Maintenant, la façon dont tu vas vivre, la qualité de vie que tu vas avoir, va dépendre de la façon dont tu vas te comporter dans la foi. C'est simple. Il faut le savoir. Et il faut le pratiquer. Mais Dieu nous a bénis de toute la bénédiction spirituelle. Où que tu sois aujourd'hui, au travers de ta foi, tu peux transformer toutes les circonstances. C'est au travers de ta foi. Si tu apprends à marcher dans la foi, si tu fais attention à ne pas être incrédule, à ne pas laisser les choses te manger, c'est-à-dire détruire entre guillemets ta vie, t'empêcher d'aller plus haut. Si tu apprends à faire ces choses, si tu apprends à croire et à laisser se manifester ce qui t'appartient dans le ciel, le manifester dans ta vie, tu vas voir les choses les plus extraordinaires. Dans Luc chapitre 15, il y a une histoire. C'est l'histoire du fils prodigue. Et le fils prodigue, c'est une histoire que souvent on utilise, nous les prédicateurs, pour ramener des gens à Jésus qui ont rétrogradé. Et nous connaissons cette histoire. Un homme avait deux fils. Et le plus jeune fait quoi? Il dit à son père, donne-moi la part qui me revient. Terrible. Il voyait déjà son père mort. Il avait déjà enterré son père, ce jeune fils. Dans cette histoire, le père dit, ok, vas-y, prends ce qui te revient. Il prend la part de son héritage et il va se vautrer lamentablement dans le péché. Et tant qu'il a de l'argent, il a beaucoup d'amis. Mais le jour où il a fini son argent, bye, tout se subira. Ah, ça c'est classique. Sauf qu'il a été assez stupide pour se laisser avoir. Et ce fils va être complètement par terre. Il rentre en lui-même parce qu'il se retrouve même à nourrir des cochons. Il n'a pas de boulot, il cherche un boulot minable et on lui donne juste un boulot pour nourrir des cochons. Et il est tombé très bas. Et c'est là où vraiment il rentre en lui-même. Il se repent et il va vers son père. Son père le reconnaît de loin quand il revient à la maison. Il le traite comme s'il n'avait jamais péché. Et il fait une fête pour lui. Il lui met une bague au doigt. Il lui met des belles sandales aux pieds. Il lui donne une belle robe. Tout ça, c'est l'image du pardon, bien sûr. En fait, il fait même une fête pour lui. La Bible nous dit qu'il va ce qu'on appelle tuer le veau gras. C'est-à-dire, on prend le meilleur et on va le donner à l'heure qui revient du péché.
Et
bien sûr, on voit l'amour du Père, c'est l'amour de Dieu. Mais il va y avoir quelqu'un d'autre qui va avoir une autre attitude. Au verset 25 de Luc 15, il est dit, « Or le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. » Verset 26, Luc 15, « Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour. » Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, mais je n'ai jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, ton fils, c'était aussi son frère. Et celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. » Verset 31, regardez bien ici. « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer car ton frère que voilà, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Lisons le verset 31 en Kirundi, s'il vous plaît.
Ngo nawe aramubwira ku murongo wa 31 ati mwana wanje tubana iminsi myinshi iminsi yose kandi byanje byose ni byawe.
Et là on voit l'attitude de beaucoup de chrétiens.
Parce
que dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ, nous avons des gens qui aiment vraiment le Seigneur, qui font tout ce qu'ils peuvent pour marcher avec Dieu, qui essayent d'éviter le péché, qui sont sérieux dans leur vie, qui font attention à se tenir droit devant Dieu, devant les hommes, et tout ça c'est bien. Et c'est ce que faisait ce grand frère. Ce grand frère, lui, il faisait toujours attention à obéir à son père. Il avait la bonne attitude de ce côté-là. Son attitude était bonne vis-à-vis du père. Dans le sens de l'obéissance, dans le sens d'être sérieux. Par contre, il avait un problème que beaucoup de chrétiens ont. C'est qu'il ne savait pas jouir des biens de la maison. C'était quelqu'un qui ne savait pas jouir des biens de la maison. Il était là, il était bien aimé de son père. Il aimait son père. Il y avait une bonne relation entre eux. Mais c'était quelqu'un qui vivait dans une frustration continuelle. Le père lui dit, tout ce que j'ai est à toi. Sous-entendu, pourquoi est-ce que tu n'en profites pas? Tu es frustré. Tu es dur. Parce que le fils aîné était devenu dur. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Vous savez, Dieu nous aime. Il veut qu'on apprenne à jouir de son royaume et des bienfaits de son royaume. C'est une question de mentalité qui doit nous amener à être changé pour apprendre à voir et à jouir de la bénédiction de Dieu. Le grand frère était jaloux. C'est vrai qu'il aurait pu se fâcher dans un sens et qu'il avait certaines raisons. De dire quand même, écoute, lui, tu fais quand même une fête, mais franchement, c'est terrible. Ce qu'il a fait là, c'est terrible. Il avait du mal à comprendre la joie et l'amour du père par rapport à son fils qui revenait. Et le père ne voyait pas ce que le fils avait fait. Il voyait que son fils était revenu. Et c'est ce qui faisait sa joie et ce qui lui a permis d'oublier toutes les autres souffrances. Le problème du fils aîné, c'est qu'il était dans la maison, mais il ne savait pas profiter de la maison. Apprends à profiter de la maison de ton père. Ton père t'a donné bonnes choses au travers de Jésus. Apprends à lui dire Seigneur merci. Est-ce que par exemple tu es vraiment persuadé que Dieu veut que tu sois heureux? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que tu penses que Dieu ne se réjouit pas quand il voit ses enfants être heureux dans le bonheur? Non, Dieu, tu te plais à nous voir dans la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Que Dieu se plaît à nous voir en train de souffrir, à nous voir en train d'avoir du mal à finir nos fins de mois, qui se plaît quand nous sommes un peu malades parce que nous sommes plus humbles et que nous prions un peu plus. Dieu ne prend pas plaisir à cela. On a une expression en français, ça c'est ce qu'on appelle les gens qui sont sadiques, c'est-à-dire ils aiment bien faire souffrir les autres. Et ça leur plaît de voir les autres souffrir.
Ouais.
Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu se plaît à nous voir heureux, à nous voir épanouis,
à nous
voir bénis.
Et
à voir que l'on profite
de
la bonne manière, que l'on profite de la bonne
manière
de ce qu'il a mis à notre disposition. C'est la grande différence entre ceux qui ont compris ce secret de la vie
et
ceux qui ne l'ont pas compris. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils peuvent être pleinement épanouis en
Christ.
Ils ne comprennent pas que Dieu les veut bénir,
veut
que cette bénédiction se manifeste dans leur vie. Et ils sont tout le temps en train de voir les choses négatives,
tristes,
jamais de réussite, jamais d'épanouissement,
parce
que c'est ce qui va nous garder dans l'humilité.
Et
bien c'est faux.
Bien
sûr tu dois apprendre
quand
tu profites des biens de la maison
à
avoir la mentalité qui va avec. C'est pour ça que personnellement je n'enseigne jamais la bénédiction. J'enseigne à avoir les yeux sur le Seigneur.
Et
le fruit, quand tu as ta relation avec Dieu, est très forte.
Ça va être
la bénédiction.
Mais
si tu cherches la bénédiction
sans
avoir une mentalité changée, cette bénédiction se transformera en malédiction dans
ta vie. Dans le
sens où elle t'écartera de Dieu.
Combien
de gens on a vu?
Il y
avait des problèmes pour qui on a prié.
Qui
aujourd'hui, bon, ils aiment bien Dieu, mais à leur façon,
quoi. Je t'aime
bien, Seigneur.
Bon,
bah, le dimanche, on va à l'église, quoi. Parce qu'on est chrétien, parce que tu m'as sauvé,
Seigneur.
Mais le reste du temps, c'est pour
moi.
C'est seulement pour moi et pour faire ce que j'ai envie de faire. Et ton œuvre ne m'intéresse pas vraiment,
Seigneur. Il y a
beaucoup de gens qui sont comme ça, vous
savez. Mais ce
n'est pas nouveau. Des gens qui ne savent pas le privilège qu'ils ont.
Vous savez,
on a plein de privilèges.
Moi,
je remercie le Seigneur d'être dans les temps dans lesquels nous sommes.
Moi,
je trouve ça extraordinaire.
On
est dans des temps où la communication est facile.
On
peut avoir plein d'enseignements sur la connaissance de Dieu.
On
peut vraiment le connaître profondément.
On
est dans des temps où on a une musique chrétienne qui est vraiment de louange et d'adoration qui est vraiment bonne.
C'est
moi, quand je me suis converti, on était assis sur nos chaises et on chantait dans les ailes de la foi. Et croyez-moi, il y avait des chants. Quand on les chantait,
ils
vous rendaient beaucoup plus déprimés quand on sortait de l'église qu'avant d'entrer dans l'église. C'était grave. Des trucs religieux qui vous
déprimaient.
Qui vous montraient toutes les souffrances par lesquelles vous allez passer.
Et
que le Seigneur prenait pitié de nous.
On avait une
image de Dieu. Nous, on venait de recevoir Jésus. Alléluia!
Et un
jour, je me souviens, il y avait un frère qui était là, c'était une petite église.
Et
ce jour-là, vraiment, il y avait la joie du Seigneur.
Et puis
je voyais ce frère chanter, comme on dit, à gorge déployée, c'est-à-dire de tout son cœur.
Et il
frappait des mains.
Et
moi, je le regardais comme ça. Je me demandais ce qu'il avait. Mais Dieu soit béni, parce que vous savez, aujourd'hui on est dans un tel siècle que vraiment quelqu'un qui a soif, il peut vraiment avancer avec
le Seigneur.
On a des privilèges fabuleux de lui appartenir. De lui appartenir.
D'être
co-héritier avec Christ. De pouvoir le louer et l'adorer en toute liberté. On a le privilège d'avoir une assurance éternelle. Tu meurs,
urapfa.
T'as ton ange qui vient te chercher.
Umumareka gashaza kugutora.
Hey Steve, je vais t'accompagner dans la gloire.
Nino Steve ndaguherekeze mu bwiza.
Et hop, tu montes au troisième ciel.
Acha nijanira nawe mu ijoro rya gatatu.
Et là tu vois tous ceux qui sont morts avant toi.
Acha mbona bapfuye bose abanye.
Tu vois Jésus qui vient te saluer.
Abona na Yesu aje kundamutsa.
Tu vois les anges qui viennent t'escorter.
Abamareka bakaza kumperekeza.
Tu vois la Jérusalem céleste.
Abona Yerusalemu.
Tu vois le trône de Dieu.
Ukabona
intebe ya gloire de Dieu.
Ukabona ubuntu bw'Imana
mu bwiza. Ma sœur, nous sommes des privilégiés. Mais des privilégiés. Moi je dis merci Seigneur. Quand je vois des pécheurs qui vieillissent sans Dieu, oh là là là
là.
C'est triste. Des gens qui partent de cette terre sans Dieu. Mais nous sommes des privilégiés. Des privilégiés, frères et sœurs. C'est absolument extraordinaire de pouvoir le connaître, de pouvoir être cohéritier. De pouvoir savoir ce qui nous appartient en Christ. Donc il faut que tu plonges tes regards dans cette merveilleuse parole, la parole de Dieu qui va te montrer qui tu es réellement et ce qui t'appartient. Si tu ne comprends pas ces choses, si tu n'arrives pas à entrer dans ces choses,
ben,
tu vas vivre effectivement des moments très difficiles sur cette terre sans jamais manifester le royaume de Dieu. Et tu vas perdre beaucoup de choses que Dieu t'a déjà donné en Christ. Parce que tu ne sais pas les manifester. Et c'est par la foi que tu les manifestes. C'est par la foi que tu verras la puissance de Dieu transformer tes situations. Alors, cet héritage que nous avons, nous le manifestons avec le nom de Jésus. Regardons ensemble dans Acte 3. Acte 3. Je relisais ça aussi ces derniers jours. Et Acte 3, bien sûr, c'est après Acte 2. Acte 2, nous savons, c'est la Pentecôte. Les disciples, après être nés de nouveau dans Jean 20-22, Jésus repart au ciel. Et puis, ce qui va se passer, c'est que Jésus va leur dire, attendez. Vous allez être revêtus d'une puissance. Le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Ils attendent, ils sont puissamment visités par le Saint-Esprit.
Ils
sont baptisés de l'Esprit, ils sont revêtus de l'onction de leur ministère. Et ils commencent à prêcher. Pierre prêche son premier sermon. Il y a 3000 personnes qui se donnent au Seigneur. La puissance de Dieu est tombée sur eux. Et ils sont dans leur ministère. Puis on a la première communauté chrétienne qui se forme. Et puis après, il y a cette histoire dans Acte 3 où il y a la guérison d'un boiteux. Il y a un boiteux qui est là, qui est devant la porte du temple. Évidemment, c'était un mendiant. Et ce qui va se passer, c'est que Pierre va guérir au nom de Jésus ce mendiant. Il est dit, Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, verset 6, lève-toi et marche. »
Et
il est dit, le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Cet homme entièrement guéri commence à sauter, à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et ça fait évidemment un remous dans la ville. Et il va y avoir des commentaires très intéressants. Il est dit, Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous, verset 12, de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre propre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le Saint, le Juste, et vous avez demandé une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir, verset 15, le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes tous témoins. Regardez le verset 16. On va lire le verset 16 en qui on dit. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme et que vous connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Le verset 16, s'il vous plaît.
Ngo kandi uyu ku murongo wa 16 uwo mubona kandi muzi kuko yizeye izina ry'uwo iryo zina ryamuhaye inkomezi mbere ukwizera ahawe nawe niko kumukirije gose imbere yanyu mwese.
Vous vous rappelez que nous avons étudié que la foi s'exerce horizontalement et verticalement.
Muribuka ko twavuze yuko ukwizera tugukoresha mu buryo bukikamye kuno mu buryo bushinze gutya.
Ici, est-ce que Pierre a prié pour ce boiteux?
Bega hano Petero yarasengeye iki kimuga?
Est-ce qu'il s'est adressé à Dieu le Père en disant Père, tu vois, au nom de Jésus, je te demande de guérir cet homme?
Bega hari na mwubona avuga ati data mu izina rya Yesu gendera umuntu.
Est-ce que Pierre a prié ici?
Nta ngona Petero asenga gutyo. Yarasenze.
Non, vous êtes là? Pierre n'a pas prié ici.
Murabona ko Petero atasenze.
Pierre a utilisé la foi dans quoi? Dans quel nom? Dans le nom de Jésus.
Yakoresheje ki ukwizera izina rya Yesu.
Le nom qui a quoi? Qui a autorité?
Rya zina rifise ububasha.
Rappelez-vous, nous sommes en train d'étudier de combattre le bon combat de la foi.
Mwibuke turiko twiga kugwana intambara nziza y'ukwizera.
Nous sommes en train de voir les obstacles à la foi.
Turiko turaraba ibisika ku kwizera.
Un de ces obstacles, c'est de ne pas savoir ton héritage, de ne pas connaître correctement ton héritage.
Kimwe muri ibyo bisika n'ukutamenya iragi ryawe.
Tu as à ta disposition le nom de Jésus.
Ufise hafi yawe izina rya Yesu.
Ça fait partie de ton héritage.
Ibyo biri mu iragi wahawe.
Jésus nous a laissé une procuration en son nom.
Yesu yaduhaye uruhusha rwo gukoresha izina ryiwe.
C'est-à-dire le droit légal sur cette terre.
Uruhusha rwemewe n'amategeko kuri ino si.
De pouvoir utiliser son nom.
Rwo gukoresha izina ryiwe
dans le domaine où il nous a donné une autorisation d'utilisation.
Mu byo yaduhaye mu kirere yaduhaye mu ngo dukoreshereze mu iryo zina.
Et cette autorisation, nous l'avons entre autres dans Marc
16.
C'est là où Jésus nous donne les termes de la procuration. Il nous explique exactement ce que nous sommes supposés faire en son nom. Regardons ensemble. Verset 17 de Marc 16. C'est l'exercice de la foi dans le nom de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous savez, quand vous chassez des démons ou des esprits mauvais qui vous tournent autour, quand vous délivrez quelqu'un, ce n'est pas la peine de vous battre. Il y a simplement besoin d'exercer votre autorité. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui se bagarrent, entre guillemets, contre les démons. Et ce n'est pas biblique. Nous n'avons pas besoin de nous battre contre le diable et les démons. Nous avons besoin simplement de faire exercer quoi? Notre autorité.
Gukoresha ubutegetsi, ububasha.
Nous avons une autorité déléguée.
Dufise ububasha twahawe.
Tu dois apprendre à avoir la foi dans cette autorité.
Ukwiye kwiga kuba ufise ukwizera muri ubwo bubasha.
Donc quand tu chasses un démon,
iyo wirukanye daimoni rero,
c'est pas la force de ta voix.
Si ukugenda uvuga n'ijwi riri hejuru,
ce n'est pas ton jeûne et prière.
Si mukwisonzesha no gusenga,
qui changera les choses.
Guhindura ibintu.
C'est simplement la foi que tu as
ukwizera ufise
dans le nom de Jésus.
Mwizina rya Yesu.
La foi dans le nom de Jésus.
Ukwizera mwizina
rya. C'est-à-dire savoir que tu es dans une position
kumenya kuri mu kibanza
d'autorité, de supériorité.
Uri hejuru cunesha.
L'autorité entre autres signifie supériorité.
Ububasha ubutegetse n'ubwo uri hejuru.
C'est-à-dire que tu ordonnes des choses
n'ubwo hari ibyo utegeka
à des êtres qui sont inférieurs et qui doivent t'obéir. Tu utilises cela parce que tu as une procuration du ciel. Pour dire à ce mauvais esprit, tu dois partir maintenant dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dans ton nom que tu fais ça. C'est parce que tu as le nom de Jésus pour faire ça. Le nom de Jésus pour faire ça. Maintenant, tout dépend de la foi que tu as. C'est simplement faire appliquer ton héritage et faire avancer le royaume de Dieu. Donc ça, c'est ton choix. C'est ta foi qui va permettre à ce mauvais esprit de partir. Ce ne sont pas tes cris, ce ne sont pas toutes sortes de choses que les gens font. C'est pour ça que je vous le rappelle, si vous délivrez quelqu'un, ou même qu'il y a des mauvais esprits, des fois il y a des mauvais esprits qui nous tournent autour,
qui
essayent de nous amener des très mauvaises pensées,
ou
des choses qui, ou des pressions qu'ils essayent de faire sur nous. Et ça, tu peux le ressentir dans ton, à partir de ton esprit. Tu prends autorité à ce moment-là. C'est-à-dire que tu déclares au nom de Jésus.
L'esprit
satanique, tu t'écartes.
Et
si tu délivres quelqu'un, tu ordonnes à ce démon de sortir. Et tu as l'autorité. Et ça va se produire à partir du moment où tu as la foi dans le nom de Jésus. C'est ta foi. Qui fait toute la différence. C'est ta foi qui fait toute la différence. Ils parleront de nouvelles langues. Nous savons que le parler en langue est associé à quoi ? L'expérience du baptême du Saint-Esprit. Donc ça, c'est des choses que, ça nous appartient. C'est pas la peine de prier 50 fois pour être rempli du Saint-Esprit. Ça nous appartient. C'est ton héritage. Par contre, dans ce passage, je ne verrai pas « buvons au nom de Jésus ».
Ah,
parce qu'il y a des gens, vous savez, ils sont comme ça. « Marchons au nom de Jésus. »
«
Conduisons notre voiture au nom de Jésus. »
Vous
voyez, tout ça, c'est des abus. Il y a un certain nombre de choses. Et vous devez savoir ce qui vous appartient en
Christ.
Il y a des gens qui veulent jouer les super spirituels. Ils ne jouent pas les super spirituels, ils jouent les super religieux. Ils saisiront des serpents. Paul l'a fait dans Acte 28. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Frères et sœurs, nous savons qu'il y a un certain nombre de gens qui, dans ce territoire d'Afrique, qui se font empoisonner.
Pourtant,
la Bible est claire là-dessus. Nous devons vivre des miracles. C'est une promesse de la parole de Dieu. Que aucun breuvage mortel ne pourra nous faire mourir. Bien sûr, si tu as quelque chose dans ton cœur qui te dit ne bois pas ça, ne le bois pas. Mais clairement, la Bible dit ici, si on boit quelques breuvages mortels, cela ne nous fera point de mal. Ensuite, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Donc ça fait partie aussi de notre héritage, la guérison divine. Pour nous-mêmes et pour l'apporter aux autres. Et c'est une question aussi de foi. C'est une question d'apprendre à utiliser le nom de Jésus et d'exercer notre foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que ce qui plaît à Dieu,
C'est notre foi. C'est ta foi qui plaît à Dieu. Ce n'est pas autre chose. Si tu veux plaire à Dieu, grandis dans la foi. Grandis dans la foi. Ne sois pas comme ce fils aîné. Alors que tu marches vraiment avec le Seigneur et que tu aimes le Seigneur,
à
ne pas profiter. De ce que Jésus a mis à ta disposition. Que le Seigneur vous bénisse et pensez à tout ça.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.